Vinouis, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une très bonne journée à Lille.
Bonjour et bienvenue dans Session Lab avec Benjamin Sarali à la réalisation et Jérémy Besset à la prise de son. Salut les garçons!
Salut!
Nous sommes à Lille, à une heure tout au nord de Paris, la capitale, et on va se diriger vers le Flow, un lieu qui est sorti de terre il y a 10 ans et qui est entièrement dédié au hip-hop. Danse, rap, art visuel, beatbox, DJing, toutes ces disciplines y sont représentées. L'artiste qu'on va y rencontrer, elle est rappeuse, chanteuse et désormais aussi compositrice. Elle est franco-ivoirienne. Elle s'appelle Issa Yazouké.
On reste focus, focus, focus. On reste focus, focus, focus. On reste focus, focus, focus. On reste focus, focus, focus.
Ça y est les garçons, je crois qu'on se rapproche. Quartier des Moulins, c'est là qu'on va. C'est un quartier populaire, un ancien quartier industriel. Au 19e siècle, il y avait ce qu'on a appelé des filatures, des usines textiles. Et en fait, il y a beaucoup de ces usines qui ont été reconverties aujourd'hui en lieux culturels. Le théâtre du Prato, par exemple. Il y a des bars aussi. Je sais pas ce que dit ton GPS, Benjamin, mais je pense qu'on se rapproche.
Ouais, on est juste devant.
Ouais, bah c'est ça, un gros bâtiment de verre et de béton. Le Flow, c'est là qu'on va rencontrer Issa Yazouké. Issa, E-E-S-A-H, c'est un clin d'œil à son prénom. Prénom d'origine hébraïque, Isaïa, qui signifie « Dieu et délivrance ». Et Yazouké, bah, c'est une référence à cet esclave devenu au XVIe siècle le premier samouraï noir. Tout un programme déjà dans ce nom. Issa Yazouké, c'est une vie cabossée et un flow, pour reprendre son expression, au goût de la passion. C'est une écriture à la fois abrupte, sincère et pudique, une musique hybride, une voix qui ne triche pas, qui rage et qui soigne aussi. Issa Yazouké a sorti déjà 2 EP, elle a reçu un paquet de prix, elle a fait des premières parties de folie avec Josman, Giorgio, Youssoupha, Booba, et elle s'apprête à livrer son premier album, BO d'une vie. Ça me plaît, ça aurait pu être le titre de cette émission.
Écoute ceinture, ça tient chaud l'hiver, au moins on bravera le froid. Vive le vent divin mais pas d'hiver, pour être honnête dans le fond. Une question de temps, le temps d'y faire. Je ressens plus rien à la fin. Écoute, ceinture, ça tient chaud l'hiver. Mais on s'est compris dans le fond.
On descend dans les sous-sols du Flow.
Tous les studios.
Ah d'accord, là on enregistre déjà.
Ouais, d'accord. Tu disais, Lisa, que tous les studios de répétition sont en bas, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, avec l'équipe, quand on enregistre, quand on répète plutôt, c'est dans le grand studio là, juste là à gauche. Je dois dire bonjour.
Bonjour Issa.
Salut.
Comment ça va?
Très bien.
Bon.
Très bien, merci.
Issa, si tu as choisi ce lieu, le Flow, qui est le centre euro-régional des cultures urbaines, pour une première rencontre, c'est, j'imagine, qu'il est porteur de sens. Qu'est-ce qu'il dit de toi, ce lieu et ce studio où nous nous trouvons?
Pourquoi ce lieu-là? Parce que c'est la première fois, enfin mon premier concert officiel, entre guillemets, il a été fait ici. C'est aussi ici que je suis accompagnée, qu'on m'a donné ma chance, qu'on m'a beaucoup soutenue et qu'on continue de le faire encore aujourd'hui. Donc c'était important que ça se fasse ici en fait, parce que je continue encore d'y évoluer, de faire mes résidences scéniques, de faire ma répétition ici dans les studios. Donc en fait simplement, c'était tout naturel d'être ici.
Oui, c'est un lieu peut-être précisé qui est ouvert au public, qui organise différents événements, des festivals, des concerts, mais dont la priorité est d'accompagner les artistes dans leur création et dans leur professionnalisation. Et je crois que toi, effectivement, depuis tes débuts, tu as fait aussi bien un accompagnement de coaching que des résidences scéniques. Et tu en sors. Je crois qu'il y a quelques jours encore, tu préparais ton prochain live.
La suite, oui, exactement.
Alors, ce lieu, tu l'as dit, t'accompagne depuis que tu as décidé, ça je le précise, en 2019, de te lancer dans la musique, alors même que tu n'avais jamais imaginé devenir une artiste et que tu étais en train de construire un autre parcours professionnel complètement différent. Pour toi, tu m'arrêtes si je me trompe, qui est croyante, cette trajectoire était écrite, prédite, comme tout ce que tu vis, elle relève de la prophétie, c'est d'ailleurs le nom de ton deuxième EP. Mais n'empêche, les choses, elles se sont faites par étapes. Alors moi, j'aimerais qu'on remonte le fil du temps pour mieux comprendre comment la musique s'est imposée à toi. Est-ce que ça te va ?
C'est plutôt, je dirais, d'abord l'écriture qui s'est imposée à moi. Et je pense qu'elle s'est imposée par la lecture. Parce que j'ai été baignée très jeune dans les mots, en fait, tout simplement. J'étais très curieuse enfant. Et donc, j'aimais tout lire. J'aimais lire le dictionnaire. Et puis, moi, je pouvais passer vraiment des heures à lire le dictionnaire.
Qu'est-ce que j'aimerais que mon fils de 8 ans fasse autant.
Je trouvais ça passionnant. En fait, on ne me forçait pas. Mais on m'a mis quand même dans ce bain-là, clairement. Et ça ne m'a jamais lâchée. Donc, je pense que mon premier rapport avec l'écriture, c'est la lecture, en fait, simplement. Ça me permettait aussi de m'échapper d'une certaine réalité aussi.
Tu parlais de ton enfance. C'est par là que j'aimerais qu'on commence. À Roubaix, une ville qui est située à une quinzaine de kilomètres au nord d'ici, au nord de Lille, si je ne me trompe pas.
Franchement, je ne saurais pas te dire. Je sais que ce n'est pas loin.
C'est pas loin. Que c'est une ville qui en ce moment relance son opération I Love Roubaix et qui cherche des ambassadeurs pour mettre en avant le patrimoine et la vie artistique justement de la ville.
Beaucoup de choses.
Tu serais prête à jouer le jeu toi et devenir ambassadrice de Roubaix?
On me l'a pas proposé, mais pourquoi pas.
Il faut être volontaire.
J'en serais fière, hein. Franchement, j'en serais fière.
Il faut se porter volontaire.
Ok, je savais pas.
Alors, est-ce que tu es née à Roubaix?
Oui, tout à fait.
Et donc tu as passé une partie de ton enfance là-bas, une enfance semée d'épreuves. Pour reprendre l'expression que tu as employée en 2020, au moment de la sortie de ton premier EP, est-ce qu'aujourd'hui que tu t'es délesté d'un certain nombre de ces épreuves par les mots, tu serais prête à en mettre d'autres justement pour qualifier cette enfance à Roubaix ?
Je pourrais le qualifier de parcours initiatique parce que j'en ai appris beaucoup. Ça a été beaucoup de vagues, beaucoup.
Vague, c'est un mot qui revient beaucoup dans
c'est
tes
vrai.
Textes.
Ça, ouais. c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est très présent, mais parce que je pense que ça qualifie précisément ce que j'ai pu vivre.
Dans vague, il y a remous aussi.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ça peut être la mer aussi, peut être calme en même temps. Et puis par moments, s'agiter un peu.
Il y a des cycles.
Voilà, il y a des cycles, et puis on apprend à surfer dessus aussi. C'est tout un apprentissage en fait. Donc je dirais que ça m'a appris beaucoup de choses surtout. Je pense que ça constitue tout ce que je suis aujourd'hui. Je pense que ça m'a aussi appris l'empathie. Je pense sincèrement que si j'avais pas vécu tout ça, peut-être que je serais une personne beaucoup moins empathique et je serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait ce que je suis en tant qu'artiste et ce qui me permet aujourd'hui de vivre de ma passion. Donc c'est une belle suite, je trouve, et c'est pas fini.
Je suis dans les starting blocks. 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 Je suis dans les starting blocks.
Qu'est-ce qui te servait de refuge, voire même peut-être d'exutoire à l'époque de cette enfance mouvementée?
À cette époque-là, il y avait deux choses. C'était la lecture, ça c'était plus secret, c'est-à-dire que les copains n'étaient pas au courant de ça. J'étais passionnée par la lecture, donc j'allais souvent dans la librairie du quartier où je dévorais tous les bouquins que j'avais apportés de main. Et après, c'était le foot.
Le foot.
Ah, j'aimais beaucoup le foot, ouais. Franchement, je suis même étonnée de ne pas en avoir fait. Parce que j'avais été repérée par un entraîneur qui voulait m'entraîner dans son club, quoi. Dans un bon club en plus. Et,
là, tu avais quel âge à l'époque?
7-8 ans, quelque chose comme
et
ça.
Et t'en fais toujours aujourd'hui du foot?
Non. Oh non, non, ça m'est passé.
Et l'athlétisme, alors, ça arrivait à quel âge?
C'est arrivé, je crois que j'ai commencé à en faire, j'avais 9 ans, il me semble. Ouais. Et très tôt repéré aussi, pour ma rapidité notamment. Et donc j'en ai fait pendant de nombreuses années. Et ça me permettait d'exulter en fait, parce que quand tu cours, tu penses à rien d'autre. Tu n'as pas le choix, parce que sinon en fait, la performance elle sera moindre. Donc ça me permettait aussi ça de m'échapper.
L'athlétisme, ça prenait une grande place dans ta vie, au point que tu as même commencé un sport-études. Tu voulais être sprinteuse, c'est ça?
En fait, j'ai pas commencé.
T'avais envie?
J'avais envie, en tout
de
cas.
De faire un sport-études?
Plus qu'envie, c'est que je devais y entrer. Mais j'ai été admise, tout ça. Je devais y entrer, mais justement, ça s'est pas passé comme prévu. Et en même temps, ça s'est passé comme prévu, vu où j'en suis aujourd'hui. Mais
si on en croit la prophétie.
Si on en croit la prophétie, tout à fait.
On se prend des tartes, elles sont pas aux pommes. Les flics débarquent à l'appart et les voisins écoutaient aux portes. Il a tapé sur maman. force pour faire un mano à mano. Shit. Guérison. Les pénalties, on pousse le caddie jusqu'à Aldi. Y'a pas assez, faudra enlever une partie. La brigade des mineurs, c'est pas pour les bombes. On rencontre des gens, c'est pas toujours les bons. Oh non. C'est monté d'un step encore. Du jamais vu dans le décor. Dans le décor. Tout dire, c'est interdit comme Voldemort.
Juste avant que tu nous expliques peut-être pourquoi ça s'est passé autrement et que tu n'as pas intégré ce sport-études, est-ce que tu écoutais de la musique pour t'entraîner ?
Oui, beaucoup. Enfin, pour m'entraîner, pas forcément, pas plus. J'écoutais beaucoup de rumba congolaise, notamment. Ça, j'ai vraiment grandi là-dedans.
Tu fais beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs références à Fally Poupa, en tout cas, dans tes textes.
Et
à
il son est jeu de rat. Ah, mais il est important. Ah oui, franchement, vous avez vraiment écouté mes morceaux. Hein, parce que, waouh, même moi, je me souviens plus que je dis ça.
Tu mais... le dis autrement, mais ah,
ouais,
c'est
non,
ça
mais
que
si,
j'ai
mais
compris.
C'est à peu près ça, oui, oui. Non, mais oui, oui, c'est vrai que j'ai grandi avec beaucoup avec la rumba congolaise, avec le gospel aussi, bah, par l'église.
Tu allais à l'église ?
Oui, 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 tous les dimanches, oui, oui. Donc, la musicalité. Ouais, j'y chantais. J'y chantais très, très mal. Mais ouais, c'était mal, c'était mauvais. Mais j'y mettais tout mon cœur. Et c'est vrai que j'ai aussi, dans l'église dans laquelle j'étais, la musique avait une place centrale aussi. Enfin, importante, centrale, je sais pas, mais en tout cas importante. Donc, je pense que j'ai gagné à évoluer, oui, dans ce milieu-là.
Est-ce que tu veux bien nous raconter, du coup, ce qui t'a éloigné de ton projet de sport-études ? Et quel âge tu avais à ce moment-là, du coup ?
À ce moment-là, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, donc je devais entrer cette année-là en sport-études. J'ai été placée en foyer, en fait. Donc, ça a été un bouleversement immense parce que... Moi, toutes ces années-là précédentes, en fait, je tenais à ça, finalement. Je tenais à ce projet-là de un jour, je serai une Marie-Josée Pérec. Moi, pour moi, c'était ça, en fait, mon destin. Et je m'étais dit que c'est comme ça aussi que je m'en sortirais dans la vie, c'était via le sport. Donc, autant dire que ça a été un bouleversement total. Quand finalement, ça s'est écroulé, j'ai dû déménager. Enfin, un sacré marasme, quand même, on peut le dire. Et en fait, à ce moment-là, justement, c'est l'écriture qui a pris le relais. Et j'ai commencé à m'essayer à la poésie, je voulais faire comme Baudelaire, tout ça. J'ai fait aussi beaucoup de poèmes en anglais.
Tu en lisais de la poésie ?
Alors ça a été avec les cours de français. Ça n'a pas été spontané de ma part, c'était vraiment avec les... Franchement, ma prof de français, je la dédicace d'ailleurs, Madame Duquesnois, si elle a l'occasion de nous écouter, parce que c'est vraiment une dame qui m'a beaucoup marquée. Franchement, j'ai eu des profs qui m'ont donné beaucoup d'amour. Et elle en
ça,
fait
c'était
partie.
À Roubaix toujours ?
Non,
le
non, non.
Foyer, ça, j'avais, scolarité.
Le foyer, ça, c'était à Ouattrolo.
Ok, je connais
c'est
pas.
C'est pas loin de Roubaix. Ouais,
ouais,
c'est
dans l'agglomération voilà. Lilloise. Ouais.
C'est pas loin de Roubaix. Et cette prof-là, en fait, je pense qu'elle avait, elle avait bien cerné que j'aimais les mots. Et donc, franchement, j'avoue que j'étais un peu sa chouchoute. Hein. Faut dire la vérité. Franchement, elle m'appréciait beaucoup et moi aussi. Et donc, c'est elle qui m'a initié un peu à la poésie. Enfin, qui nous a tous. En vrai, ça, c'était pour le coup, c'était dans la classe, quoi. Mais du coup... C'est vrai que quand je rentrais, je voulais, j'imitais un peu tout ça. Après, j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai fait beaucoup de poèmes en anglais aussi. Et c'est comme ça que l'écriture est entrée dans ma vie. Je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment cathartique. À quel point ça me faisait du bien de poser des mots, moi qui ne parlais pas beaucoup. Je ne suis pas une personne qui parle énormément. Et via l'écriture, ça me permettait de m'exprimer en fait, de manière très sincère.
Quand est-ce que le karma viendra sonner l'heure ? On connaît par cœur l'horizon où je suis allée. Imagine la déraison quand elle a des alliés. Te fie pas ce qu'ils peuvent te dire, c'est un leurre. Où est le vrai, où est la part de rêve? Ça se trouve, on s'est jamais réveillé de notre songe. Aux alentours, il y avait rien qu'on pouvait admirer. C'est pas rien, c'est la rue, ça donne des vraies leçons. Bah ouais, les vagues seront plus violentes sur une mer seule. Je me suis juré de la mettre à l'abri du vent. C'est quel genre de sorcellerie est bloqué dans le même sort? Y'a pas que de la poussière cachée sous les divans. Quand est-ce que le karma viendra sonner l'heure?
Et est-ce que tu écoutais du rap, qui est une forme de poésie aussi, à l'époque ?
Alors à ce moment-là, est-ce que c'est... Oui, je commençais. Parce que moi, le rap, j'en ai écouté tard, finalement. J'ai d'abord grandi dans la musique, les musiques africaines, beaucoup. Et après, ça a été le rap. Notamment, j'ai beaucoup écouté Lil Wayne. J'étais très fan de Lil Wayne.
Donc, j'ai rappeur imité, américain. Oui.
Je pense que c'est pour ça que j'ai fait des poèmes en anglais. Je pense que ça vient de là. J'ai appris à rapper avec Lil Wayne.
En l'écoutant.
En vrai, c'est en l'écoutant. Et voilà, j'imprimais des paroles et je rappais. Mais j'ai grandi dans un... En fait, il y avait un peu de tout. Il y avait du rap, mais il y avait aussi beaucoup de rock. Rage Against the Machine, les Red Hot Chili Peppers, Muse aussi, très fan de Muse. J'ai évolué en tout cas dans tout ça, dans plusieurs influences. Je ne suis pas mis de barrière en fait.
Et tu continues à le faire d'ailleurs.
Ouais.
Tu disais que tu n'étais pas très bavard, plutôt introverti. Et pourtant, je me suis laissé dire qu'à cette époque, donc l'époque du collège, tu ne pensais pas à faire de ta vie de la musique, mais tu voulais être humoriste.
Ah,
c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Bon. Après, c'était pas... Franchement, ça, c'était plus jeune que je disais ça. C'était vraiment avant. Mais parce que j'aimais bien faire rire les gens. Et mine de rien, même si je pense pas que je ferais du stand-up un jour, quoique, franchement, je me ferme à rien. Mais c'est vrai que j'aime bien faire rire les gens. Parce que, surtout ceux qui étaient tristes, en fait. Je me rappelle quand j'étais enfant, dans la cour de récré, quand je voyais que quelqu'un n'était pas bien, et bien c'était par l'humour que j'essayais de faire décrocher un sourire. Et le truc, c'est qu'en mine de rien, l'humour, ça a été un biais qui m'a permis... de découvrir ma voix. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que si j'ai commencé à chanter, à découvrir ma voix comme ça, c'est parce qu'à la base, j'imitais des chanteurs, des chanteuses pour faire rire les gens.
D'accord.
Et en fait, ça a commencé comme ça. Et du coup, je m'entraînais, hein. Vraiment, je m'entraînais.
Donc tu faisais le show déjà.
Ouais, je faisais le show. Je pense que c'est par ce biais-là qu'au fur et à mesure du temps, les gens de mon entourage autour de moi, en fait, ils ont commencé à me dire « mais en fait, t'as une voix ». Eux, ils me prenaient au sérieux au fur et à mesure du temps. Ils rigolaient même plus, en fait, parce qu'ils disaient, en fait, en vrai, t'as vraiment un timbre de voix. Moi, je le prenais absolument pas au sérieux. Mais je pense qu'en fait, ça vient de là.
Il faut
d'autres. Il y avait de tout, hein, franchement. Il y avait Whitney Houston, Christophe Maé. Enfin, il y avait de tout, en fait. Franchement, il y avait de tout. Et en fait, voilà.
Ils imitaient, en fait, leurs accents, leurs manières, en fait.
Ouais, leurs manières, en fait. Mais du coup, à force, c'était des entraînements vocaux, finalement. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ma voix. Finalement, ça m'a conduit à tout ce qui s'est passé ensuite.
Qu'en est-il de la prophétie ? Qu'on me dise pas d'improviser. Tant que t'es sur terre, tout se prouve ici. Je vois la lumière, mais elle s'est pas visée. Enfant sans parole, écrivez ses vers. Parapluie veut lutter contre le vent. Pour être meurtri, mais ça persévère quand même. Faudra un movie avec la vie qu'on mène. J'ai imaginé ma fuite comme une comète. T'as lu toutes les pages, mais tu retournes au sommet. Sa mère, qu'est-ce que t'as mal, c'est le sommet. Ma quête reste la même en ce moment. Je veux être comme un bébé à sa maman. Une mère et son monde barrent dans la ville la nuit. Comme si sous le ciel on élisait domicile. Y'a pas que les étoiles qui filent la nuit. Faut qu'on s'enfuit, y'a pas d'amis ici. En attendant la prophétie.
Tu disais que tu n'étais pas très bavarde et je me suis laissé dire aussi que justement pour communiquer avec toi, les éducateurs au foyer te créaient des playlists.
Ouais, c'est vrai. Ah oui.
Ça, c'est magique. Du coup, tu te souviens de ce qu'ils mettaient dans ces playlists et ce que disaient ces chansons ?
Je m'en souviens. Je me souviens qu'il y avait la psy du foyer qui m'avait... Elle, souvent, elle rafraîchissait ma playlist et une fois, elle m'a dit « il y a une chanson, elle est pour toi ». Et c'était Mickey 3D. La petite footballeuse de Sherbrooke, parce que j'aimais bien jouer au foot. J'avais vraiment de tout, j'avais du Hacha, Kezia Jones aussi, Lauryn Hill, j'avais de tout en fait.
Ils t'ont construit une culture musicale.
Franchement, clairement. Hein.
Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça t'a aidé à t'exprimer davantage ? Est-ce que la parole s'est déliée grâce à la musique ?
Non, en tout cas pas immédiatement, mais je pense que ça a été sur le long terme.
Bien sûr. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que à ton tour, tu parlais d'empathie très jeune, tu étais attentive à ce qui se passait dans la cour de l'école, tu voulais apporter du réconfort par le biais de l'humour et de tes imitations aux enfants qui pouvaient avoir un petit coup de blues. Et tu as choisi de faire des études dans le social, d'emprunter cette voie. Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe, je crois que tu as fait une fac de sociaux. Mmh. Ensuite, tu as pris une année sabbatique pour accompagner des mineurs délinquants. Puis qu'après, tu as suivi une formation pour devenir éducatrice spécialisée. Mmh. Et c'est en troisième année d'école que là, tu as un stage d'un an à faire et que il y a une nouvelle bascule.
C'est une précision incroyable. Non, oui, c'est exactement ça.
Tu as quel âge ? Excuse-moi, j'aime bien moi, avoir des repères comme ça pour comprendre.
À ce moment-là, j'ai quel âge ?
Troisième année d'école d'éducatrice spécialisée.
J'avais 24 ans. On me précise dans l'oreillette que j'avais 24 ans.
Sa manageuse et conseillère artistique.
oui, dernière année d'études. Ouais, à ce moment-là, donc c'est un stage d'un an. Et moi, je l'effectue dans l'exclusion. Donc c'est à destination des personnes qui sont à la rue, notamment, qui ont connu un parcours migratoire, tout ça. Donc c'est la Beige, l'association d'ailleurs, parce que franchement, cette association et ses protagonistes, c'est vraiment des gens de bien. Hein, vraiment.
La Beige.
La Beige.
La Beige, en un seul mot.
Ouais, c'est ça. Et qui font leur maximum pour venir en aide à toutes ces personnes. Et c'est vrai que moi, ça a eu un certain déclic parce que je pense que ça a résonné aussi avec mon histoire, leur situation, et aussi parce que c'était dur. On a l'habitude, malheureusement, aux abords des rues, de croiser ces personnes sans vraiment les regarder. Là, en fait, toutes ces personnes-là, elles sont réunies en un seul lieu. Et en fait, on se prend une vague, encore une fois. Et là, on ne peut pas détourner le regard. On les accompagne, on apprend à les connaître, ces personnes, à comprendre leur parcours. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, ça a commencé à me peser, en fait. J'ai bien senti que c'était plus compliqué. J'avais du mal à quitter le travail, même quand j'en étais sortie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai recommencé à écrire. Parce que je sentais que j'en avais besoin, en fait.
Ouais, parce que du coup, on t'apprend pas forcément à te protéger. Il faut accueillir tous ces parcours, cette souffrance. Ouais,
c'est un apprentissage, qu'on nous enseigne un peu, mais pas assez, je pense. Pas assez. Il y a de la supervision, hein, mais bon, c'est pas tous les jours. Donc, on doit faire avec ce poids-là. Donc, on n'a pas d'autre choix que de l'appréhender comme on peut, quoi.
Monter des eaux, j'ai capté le malin, venir mater le désordre. Quelle idée de jouer la transparence, à j'en paie la dose à raison. Dégâts colossaux, le corazon ne bat son plus au summum. C'est dur, faut que je me fasse au mot, parler de pente descendante. J'ai même papier, le stylo pleure, il se fait un sang d'encre. Thérapie sur papier, pourvu qu'on t'en ciel. Putain, t'avais qu'un quart de siècle, je sais plus. Est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure? Est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure? Je sais plus, est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure? Est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure? Est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure? Je sais plus. Est-ce que c'est le sol ou solar qui pleure?
Tu recommences à écrire. Et là, en fait, très vite, tu passes de l'écriture à l'envie d'interpréter ces textes. Et c'est là où il me manque un... il manque un truc, faut que tu m'expliques. Comment, en fait, tu passes si vite de « je me remets à écrire des textes et puis je plaque tout, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, mon école, ma formation, et de me lancer, quoi. »
En fait, oui, c'est vrai que c'est important de préciser que tout au long, finalement, de mon parcours, il y a eu des semeurs, des semeuses de graines, finalement. Toutes ces personnes qui me disaient « t'as un timbre de voix ». Moi, j'ai une sœur que je considère comme ma sœur, même si on n'a pas le même sang. On s'est rencontrés au foyer ensemble, on a vécu ensemble plusieurs années. Elle s'appelle Jenny et elle a cru en moi dès le départ. Elle me prenait au sérieux, en fait. Et carrément, des fois, elle me donnait rendez-vous dans sa chambre. Elle me disait « Ok, aujourd'hui, tu vas chanter du Céline Dion. Ok, aujourd'hui, tu vas chanter ça. » En fait, elle première coach, en vrai. C'est ma première coach. Elle croyait vraiment, elle disait « t'as un truc, en vrai, donc lâche pas ». Moi, je le faisais plus pour lui faire plaisir, mais en vrai, je comprenais pas où elle voulait en venir. Elle est même jusqu'à aller m'inscrire à Nouvelle Star. À la Nouvelle Star, quand même. Ouais, elle a fait ça.
Derrière ton dos ?
Ouais, et puis après, elle m'a dit « tiens, c'est ton numéro ». Mais j'y suis pas allée. J'ai dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et pour moi, c'était vraiment... je sais pas d'où ça sortait, mais pour moi, c'était complètement délirant. Et en fait... finalement non, mais je pense que c'est tout ça en fait, c'est la conjugaison de toutes ces personnes finalement environnantes qui ont joué un rôle en fait dans le fait que je passe de l'écriture à l'oralité, parce que je me suis rendu compte aussi qu'en les lisant en voix haute, ça me procurait quelque chose de particulier, je me sentais allégée. Je me dis waouh, j'ai dit ça, ah ouais, j'ai sorti ça. On m'a poussé beaucoup, en fait, à aller plus loin. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc finalement, cette période-là, aussi triste soit-elle, ça nous a quand même permis d'être face à nous-mêmes. Et là, j'étais face à moi-même. et ça m'a permis de délivrer Kadarexki.
Je crois que j'ai trouvé l'inspi, je vais rimer ce que je vis, exprimer ce que je trim. Écriture automatique, égrenée, sucrée, le tout comme des fruits confits. Puissance de l'instant, j'aime ces moments flottants, même sans caramel coulant. Ivresse, on va screener sa vie, on va screener ça comme dans un photomaton. C'est léger, mais pas aussi blanc que de la neige. On s'enlise, c'est pas aussi sale que de la glaise. Cadavre esqui, ma vie comme un cadavre esqui. Cadavre esqui, ma vie comme un cadavre esqui. Et dans ma team que des chic types, j'fais des yes, j'fais des yes, ouais. J'n'oublie pas mes gros chocs aussi. Elle c'est des reines, c'est des reines. Je décélère, décélère, plus j'ai trop interrompu. J'avoue tout comme du pain perdu. Pourvu que ça perdure, mais je me suis sûr des trucs, on dirait du sucre. Ah mais qui l'eût cru, me trouver devant foule, j'pense que j'suis enfin frimur. J'pense que j'suis enfin frimur, ouais. J'échangerai pas ça contre un million d'écus, contre aucun pécule, j'vous dis ça en exclu. Je laisse ça entre les mains du mec tout. Le schéma réconclu, ouais. C'est léger, c'est léger. Et on s'enlise, on s'enlise. Et on s'enlise, on s'enlise.
Pour se lancer, il te faut un nom de scène. Et je crois qu'il y a d'abord eu Issa, qui se rapproche de ton prénom Isaiah. Comment est arrivé Yazuke ?
En fait, pas tout à fait. Le premier blaze d'artiste que j'ai, c'est Isha.
Isha, oui, c'est ça.
D'abord, en fait, c'est Isha.
Qu'il y a un artiste qui...
Et je me balade dans la rue, ici, juste derrière là, voilà, sur les murs du flow, et je vois Isha en concert. Mais un mois après. Donc en fait, je me suis appelée Isha pendant un mois, avant de découvrir qu'en fait, j'avais quelqu'un qui... porter ce doux nom. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert cet artiste qui fait partie des artistes qui m'influencent beaucoup, mine de rien. Donc, c'était pas un hasard. Isha. Donc, j'ai dû chercher un autre nom. Je le voulais encore proche de Isaiah, de mon vrai prénom, parce que Isaiah, ben voilà, ça a une consonance aussi religieuse. En hébreu, ça signifie sauvé par Dieu. Et c'est clair que moi, mon lien à la spiritualité étant important, je voulais aussi que mon nom d'artiste en découle aussi. Donc, c'est devenu Issa pendant longtemps. Et ensuite, Yasuke, ça c'est arrivé quand j'ai découvert son histoire. L'histoire d'un homme noir esclave à l'époque féodale et qui va être déporté jusqu'au Japon et qui va, au fur et à mesure du temps, qui va gagner la confiance et le respect de l'empereur Nobunaga et qui va être défait de ses chaînes. Et en fait, moi, c'est tout ce parcours-là qui m'a touché. Et qui m'a inspiré aussi. Je dis, ah, ça, c'est un vaillant, c'est un combattant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accoler Yasuke à Issa, parce que je trouvais que ça me définissait bien, en fait, la pugnacité, justement, la combativité. C'est quelque chose qui, je trouve, qui me qualifie. Et je me suis dit, oui, c'est moi. Yasuke, 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 Yasuke.
Tu viens de nous raconter l'histoire de Yasuke. On peut citer aussi Sarah Walker, la femme d'affaires qui a été aussi une figure symbolique de l'afroféminisme à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec laquelle tu ouvres ton premier EP. En fait, dès le début, tu convoques des figures qui, tu le disais, ont transcendé l'adversité, qui ont transcendé leurs conditions. C'était une manière de poser les bases.
Certainement, ouais, je pense.
Mais en fait, est-ce que c'était conscient? Ou, enfin, tu vois, comme ça, de s'entourer de figures un peu...
Je pense pas que c'était conscient. Franchement,
maintenant,
je pense pas.
On se dit, ah bah oui, c'est normal,
oui, maintenant,
ça
je
fait
vois
sens,
le...
make sense.
Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est au fur et à mesure du temps qu'on comprend qu'il y a un fil, finalement, à tout ça. Mais au départ, je pense pas que c'était si conscient que ça. Encore une fois, pour parler de cette grande dame, Sarah Walker, je l'ai découvert d'ailleurs dans la mini-série pendant le confinement. Et je fais waouh. Et je me souviens que quand j'ai fini de regarder cette mini-série-là, j'ai écrit... tout de suite. C'était
j'ai reçu le message.
Ouais.
C'est comme ça que tu dis.
J'ai capté le message.
J'ai capté le message.
Sarah Walker.
Ouais. C'est une manière de poser les bases et puis du coup d'indiquer la destination, la Kitoko Life.
Waouh, non, c'est incroyable. Franchement, vous avez vraiment écouté. C'est incroyable.
Kitoko Live, quand même, il faut expliquer à ceux de nos auditeurs qui ne maîtriseraient pas le lingala. Bah, je ne maîtrise pas du tout le lingala, mais je sais que ça veut dire... Donc, le lingala, qui est une langue qu'on parle en République démocratique du Congo et en République du Congo tout court, ça veut dire beau, bon, belle. Exact. Et donc, Kitoko Life, ça fait la belle vie.
Tout simplement, tout simplement.
Et sur le chemin de la Kitoko Life, il y a la résilience. Et sur le chemin de la résilience, dans ce premier EP, tu évoques l'exclusion, la maladie mentale, le racisme aussi. Et tu écris « Mon flow a le goût de la passion, il y a de la place pour tous les fruits. Regard effaré des passants, ça fait longtemps qu'on prend la fuite. J'ai la peau sombre, mais je reste claire. Il n'y a que du vrai dans mes vers. Et j'avance un peu à cran, la rage fait vibrer ma glotte. » J'ai envie qu'on écoute ce morceau. Mon ciel.
Je contemple le ciel, je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand. A trop passé le sel, je goûte pas mon plat, faut que je pense à ma panse. Quand même les fois où j'aurais pu finir, camé c'est grave tard quand j'y pense. Au fait maman attend toujours sa part de la tontine, faut pas nous prendre pour des cons. Quand même, tout pour mes galériennes et mes foyers, on fuguait en troupeau comme des voyous. Pensez à nos morts, force aux vaillants, j'irai jamais la haisse à leurs voyeurs. Non, j'irai jamais cela, non bah voyons. Rien de côté, pas du genre prévoyant. On me paye aux consonnes et aux voyelles. Il est comme le virus, il peut varier. Marron ou verdé, a les yeux ferrants. Ah. Yeah. C'est eux ou c'est nous qui les mougou.
Quand la folie aura raison de la raison.
C'est eux ou c'est nous qui les mougou.
Il a dit le mot en N, faut le saisir.
C'est eux ou c'est nous qui les mougou.
L'épisode est le même dans toutes les saisons.
C'est eux ou c'est nous qui les mougou.
Un qui sont pas prêts pour la suite, tu auras saisi.
Je pense que j'ai les outils, on se comprend ça sans les sous-titres. V'la l'auteur, ça sans les soucis. Je crée mon monde ici, rien de sensé.
Je regarde, je vais replay sur ce que mon œil a vu. J'avoue, mon amour, j'en ai pas vu, pas vous.
Mon flow a le goût de la passion, y'a de la place pour tous les fruits. Regard effaré des passants, ça fait longtemps qu'on prend la fuite. J'ai la peau sombre, mais je reste clair. Y'a que du vrai dans mes vers.
Je le disais, Issa, tout va aller très vite à la suite de ce premier EP, Cadavre. Ah, c'est pas facile à dire. Cadavre,
ouais,
exquis.
C'est vrai, hein, c'est pas si simple.
L'année de la sortie, tu remportes, entre autres, le Buzz Booster, qui est un dispositif national de détection d'artistes hip-hop qu'on juge sur leur performance scénique. Donc ça, ça dit aussi quelque chose d'important sur toi. Tu remportes aussi Rappeuse en Liberté, qui lui offre un accompagnement professionnel aux lauréates. En 2022, tu es sélectionné par Le Fer, qui lui est un dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation dans les musiques actuelles. Tu donnes plus de 80 concerts. Tu fais la première partie de Youssoupha au Trianon à Paris. Tu remportes le Grand Prix des Inouïs au Printemps de Bourges. Comment t'as vécu tout ça? C'est énorme.
Oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que j'ai même pas pris la mesure de tout ce qui pouvait m'arriver tout de suite. C'est l'entourage en fait qui conscientisait ça plus que moi.
Justement, tu parles de ton entourage. Léa est là. Peut-être qu'on peut lui tendre notre micro. Léa, qui est ta manageuse, ta directrice artistique. Moi, j'aimerais bien avoir son regard sur cette période de folie. Léa, est-ce que tu veux bien?
Ben, j'étais fière parce que je la connais aussi dans sa vie privée. Donc forcément, je savais limite plus qu'elle, je crois, ce que ça pourrait représenter pour.
J'ai lu ça que tu dis que Léa te connaît, peut-être la personne qui te connaît le mieux.
Et du coup, ouais, je pense que moi, je l'ai vécu où justement, je me rendais peut-être plus compte de ce que Issa vivait par rapport à son parcours de vie. Et du coup, ça allait très, très vite aussi parce qu'on était un petit groupe aussi d'amis qui la suivions de très près et qui la connaissions d'avant. Et du coup, on était là au Buzz Booster. On était toujours partout où elle allait. On l'accompagnait, on la soutenait.
Toi, c'était ton métier d'être manageuse ou tu l'as appris avec Issa?
En fait, à la base, je faisais son graphisme, sa direction artistique, ses pochettes. Enfin, Cadavreski, la première pochette de EP. Je faisais son styliste. Enfin, du coup, au début, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce qu'à la base, je travaillais dans la mode. C'était pour un défilé d'ailleurs. Où je l'ai castée pour qu'elle puisse défiler pour un projet. Et voilà, et au fur et à mesure, on est rentré dans la direction artistique. Et puis, au fur et à mesure, ben, le management est venu tout doucement. Donc non, c'était pas du tout mon métier à la base, mais voilà, on en est aujourd'hui.
Eh ben bravo, félicitations. Issa, moi, ce que j'aimerais savoir, peut-être que le flow a son importance, justement, le lieu où nous sommes et qui t'a accompagné depuis le début, parce que tu te retrouves sur scène aussi. Là, on passe de l'écrit à la parole, au partage avec un public. Et ça, c'est encore une autre dimension de ce métier. C'est pas rien, 80 concerts en une année.
Ah non, c'est clair que c'est pas rien.
Et des premières parties comme celle de Youssoupha.
Bah oui, pas mal. Surtout que je me rappelle de cette grosse tournée-là. La première date, c'était première partie de Josman à l'Aéronef. Incroyable.
Ouais, l'Aéronef, c'est dans le coin. Hein.
Oui, c'est dans le coin, ouais, tout à fait.
Tu te retournes comme ça en montrant du doigt.
Oui. Ouais. C'est pas tout à fait à côté, j'ai un peu abusé du geste, mais c'est pas très loin. Donc oui, j'ai fait des premières belles parties.
Ouais,
Josman et ensuite
Youssoupha en 2022.
Ouais. Ouais. Et Kerry James aussi, je pense.
Et Kerry James, waouh.
Ouais. Wow. Ouais, c'était magique.
Alors c'est intéressant qu'on parle de Kerry James, parce que là, on vient de parler de ce qui s'est passé dans ta vie en 2022. Mais en France, voilà ce qui se passe.
Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix.
Franchement, on va trouver à choisir entre le néolibéralisme et l'extrême droite. Franchement, je ne sais même pas comment on en est arrivé là.
Je ne peux pas supporter que l'extrême droite passe au pouvoir. Je n'espère pas vivre ça de ma vie.
En 2022, Issa, aux élections présidentielles, donc l'extrême droite réalise un record historique sous la Ve République. Et toi, tu sors Extrême, un morceau dans lequel tu fustiges la montée de l'extrême droite en France. C'est pour ça que je parlais de Kerry James.
Je comprends.
Voilà, c'est un artiste qui peut-être aussi a pu t'inspirer dans cette voie.
Je pense que l'art, c'est aussi ça. L'art, c'est aussi de se divertir. Hein. On en a besoin. Mais c'est aussi se positionner, selon moi. Et moi, c'est important pour moi de le faire. Donc, Extrême, il s'est fait de manière très instinctive. Dans l'écriture, ça a été très tout droit. Ça, c'était dû à je pense, la situation émotionnelle dans laquelle j'étais. Et ce morceau-là, on continue de le jouer encore aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, il retentit beaucoup. D'autant plus ces
Deux
derniers temps.
Deux ans plus tard, malheureusement,
c'est triste,
est toujours, il est plus que jamais d'actualité.
D'actualité, ouais.
Tu parlais de la manière dont tu avais écrit ce morceau très vite comme ça. Justement, je me demandais comment ça s'était passé, parce que sur ton premier EP, tu rappes sur des instrus trap ou down-tempo, infusé de soul. Là, on ressent beaucoup plus les influences rock que tu évoquais. Il y a quelque chose de beaucoup plus organique, en fait. Une énergie limite punk dans ce morceau. Et donc, je me demandais si c'était la prod qui t'avait inspiré les propos ou l'inverse.
Ah, je crois que c'était les deux. En fait, c'était les deux, et c'est fou, en fait, je me rappelle de ce jour-là, parce que, en fait, le beatmaker qui s'appelle Al777, qui est un gars d'ici, qui est aussi à la prod de Mon Ciel, je me souviens que je marchais dans la rue, et en fait, on s'est croisés, mais par le plus grand des hasards, et il me dit, je viens de faire une prod, c'est incroyable. Et moi, c'est vrai que j'étais aussi dans ce. Baigné par. L'actualité, et c'est marrant en fait qu'on soit croisé à ce moment-là. Il me fait écouter comme ça au téléphone rapidement sa prose, et je dis, mais c'est ça, c'est exactement ce dans quoi je suis en termes de mood. Et en fait, ça s'est fait, on s'est vu chez lui, et puis on a enregistré ça comme ça en fait.
T'étonnes pas des abeilles qui rappliquent en piquant si t'as secoué tous les siens. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des 5. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent. Plein de projets pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les 100 pas. C'est pas de la danse, c'est juste qu'ils s'appellent samba. Calé dans le cortège avec tous les 100 papes. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. Ses yeux rouges sur peau d'ébène. La fabrique est à revoir vu tous les défauts. Levé de l'extrême. Levé de l'extrême droit.
L'année 2022, Issa, c'est aussi pour toi un voyage au Sénégal où tu as assuré la première partie d'un concert de Booba. C'est vrai ça ?
Ouais, c'est vrai.
Non mais c'est énorme. Non mais donc là, il faut que tu m'expliques comment ça s'est fait quoi.
Alors
comment on se retrouve en première partie de Booba mais au
déjà,
Sénégal ?
Le voyage au Sénégal, il était déjà prévu. Donc il y avait déjà des concerts qui étaient bookés, et puis j'avais aussi la résidence studio. Donc dans tous les cas, moi j'y allais. Et c'est quelques, je sais pas, je crois que c'est deux semaines avant qu'on me dit en fait on vous propose de faire la première partie de Booba. Je fais bon. Je suis très étonnée, je fais c'est pas une blague et tout, c'est vraiment sérieux. Et effectivement, on a accepté. Et donc on s'est envolé à Dakar et on est arrivé le jour même. Et puis c'était le 6 mai.
Ouais.
Et c'était à Dakar. C'était
tu
incroyable.
Tu te souviens du lieu
le lieu, le 6S, ça s'appelait le 6S, je me rappelle. Et Dakar était enflammé.
Mais oui.
Ah ouais. Mais vraiment, c'était.
C'est pas
incroyable.
Facile en même temps comme exercice. Tout le monde attend Booba et puis.
Oui, mais moi j'avais eu les 80 dates d'avant. Ouais. Donc en fait, finalement, moi c'est pas la première partie, je connais. Et bien sûr que je sais que de toute façon, c'est pas moi qu'on vient voir. Donc en fait, moi je fais ce que j'ai à faire, je donne tout ce que j'ai. Et puis c'est quand même une vitrine dans tous les cas, donc bien il faut sûr. La saisir. Même c'était incroyable. Franchement, j'ai joué des premiers morceaux de mon EP qui n'étaient pas encore. Sortis et ils ont été réceptifs, ils ont rappé avec moi, ils m'ont donné les fleurs, franchement, ils m'ont donné les fleurs, c'était incroyable alors que j'étais pas attendue, moi. C'était beau.
T'as pu échanger avec
lui. On s'est croisés, mais on s'est pas vus, on a pas, en fait, on n'a même pas pu échanger. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli même ne pas monter sur scène parce que la prog c'était en retard et tout ça. Et en fait, moi j'arrivais, j'allais monter sur scène et Booba arrivait, moi je le voyais arriver avec son équipe et on m'a dit, et c'est maintenant ou jamais. Enfin, il y avait eu un incident technique, tout ça, ce qui fait que je ne pouvais pas monter. Et on dit, c'est maintenant. Et bon, heureusement, j'ai pu c'est monter maintenant. Sur scène, j'ai fait le truc. On s'est croisés, j'ai croisé plus après les gars de son équipe, tout ça, mais on n'a pas échangé, en fait, on ne s'est pas vu du tout.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier.
Tu disais que ce voyage au Sénégal, il était prévu. Toi, tu es franco-ivoirienne, c'est ça ?
Cap-verdienne portugaise.
Waouh,
tout ça.
Tout ça.
Tout ça.
Est-ce que tu as l'occasion d'aller régulièrement sur le continent ou...
J'y suis allée une fois en Côte d'Ivoire. J'avais 7 ans et demi. Mais sinon, non, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais bien. Moi, mon rapport à l'africanité est très important pour moi. Donc, j'aimerais bien y aller davantage et je pense à y aller davantage. Ça, c'est
et donc là, ce voyage au Sénégal, c'était un peu une grande première, quoi.
Ben oui. En tant qu'adulte, oui. Et j'étais très émue. Très, très émue. Waouh, et puis franchement, le peuple sénégalais sait recevoir.
Donc, la terre de la teranga.
Ah, exactement. Ah, l'hospitalité était au rendez-vous. Mais, wow, c'était magnifique.
Lion de la teranga, y'a R, j'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération, boule, fallait.
Tu l'as dit, ça, tu écoutes encore beaucoup de rumba congolaise. On a cité Fally Ipupa, mais on aurait pu citer aussi peut-être Papa Wemba. Tu écoutes aussi beaucoup de rap ivoire. Je me suis laissé dire que Didi B et Suspect 95 étaient dans ta playlist. On trouve d'ailleurs des mots en ouchi dans tes textes. On va pas les citer ici parce que...
Oui, non, on va pas citer.
On va laisser nos auditeurs t'écouter. Oui. Tu seras d'accord avec moi pour dire que ton goût pour les musiques afro, il se traduisait pas forcément musicalement jusqu'à présent dans tes projets, mais ça arrive avec ton premier album, La BO d'une vie. BO d'une vie ou la BO d'une vie ? BO d'une vie, tout simplement. Et alors, je sais pas si c'est lié, mais c'est vrai qu'il y a eu, je crois, pas mal de nouveaux déclics, de changements ces derniers temps dans ta vie. Pour la première fois déjà, ça j'ai pu le vérifier, tu t'es frotté à la chanson d'amour, en collaboration avec une artiste qui s'appelle Rain, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Et puis, mais je comprends que ce n'est pas nouveau, tu ne rappes plus seulement maintenant, tu chantes.
Oui,
ça c'est voilà.
C'est nouveau pour les auditeurs auditrices.
Mais... Voilà. Ouais. Et puis tu composes.
Oui.
Comment c'est venu ?
Alors ça, c'est venu l'année dernière. C'est très récent et c'est venu d'une panne d'inspi en fait. Clairement. Je pense que j'avais déjà cette frustration depuis longtemps de pas pouvoir et de pas savoir surtout composer. Et en fait, à un moment donné, j'ai une grosse période de panne d'écriture, le syndrome de la page blanche. Et en fait, je me suis lancée dans la compo, comme ça, parce que je ne savais plus écrire. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de réécrire de nouveau. Et puis, c'est vraiment au plus près de la manière dont j'imagine les choses, en fait. Et je trouve que ça rend les morceaux encore plus atypiques, tout simplement.
Et puis, il y a un featuring avec Youssoupha sur cet album à venir.
Tout à fait.
Classe!
Plutôt oui, très honoré.
Je crois que c'était un peu un de tes rêves de pouvoir collaborer avec lui.
Ah ben ça, clairement. Et on est en lien depuis, presque, en fait depuis le début, parce que lui très vite, il m'a donné beaucoup de force. C'est un des premiers grands artistes à m'avoir donné de la lumière, notamment lui, je sais qu'il aimait beaucoup Kadar Exki, il n'a pas hésité à en parler, et on est resté en lien, et puis via aussi les premières parties que j'ai pu faire avec lui. Donc on est resté toujours en lien, on discutait régulièrement, on se croisait, tout ça. Et en fait, c'est beau. C'est beau parce que c'est pas juste un feat. C'est pas juste un feat avec un grand nom. C'est au-delà de ça, c'est qu'on a vraiment créé une relation. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Franchement, même la session studio qu'on a vécue,
On en a parlé après, on s'envoyait des vocaux, on dit mais même si le feat il était pourri en vrai et qu'il aurait pas abouti,
ça s'est pris.
C'était tellement beau le moment, on a tellement, franchement c'est moi il me marquera à vie et ça c'est beau parce que c'est plus qu'un feat, c'est une relation, c'est voilà quoi, c'est un grand frère et voilà, je suis honoré qu'il soit sur cet album là parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup via sa musique, donc je suis très touché qu'il soit là.
Terre est empêchée, parler de Dieu passe lui des colonies. Dépasser les cadavres et les palabres et les drames. Love dans les yeux jusqu'aux cieux, follow me. J'étais paranoïa comme un négro d'Alabama. Maintenant j'existe, maintenant j'ai vista. Maintenant j'ai drapeau, j'ai gamo, c'est quichta. Riche, bitch, billionaire speech. Molotov cocktail, Molotov gospel. Ah.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir refait ce chemin avec toi. Et je crois qu'on y est, la Kitoko Life. On est en plein dedans. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et surtout, moi, j'ai hâte de pouvoir apprécier ce nouvel album. Merci beaucoup, Issa. Merci beaucoup.
Plaisir.
J'en ai plein le cœur, je suis pas semé. L'imbécile croit pouvoir m'éteindre. C'était l'époque des tresses et du seum. Elle me travaillait du soir au matin. Bloqué comme un paquet de clopes dans la chaussette, à côté de ses yep, à milieu de la chaussée, les jeans sont en meute, c'est la partie de chasse. Tout a commencé par un manquement de chance. Et désolé, vont-ils être, ça tourne dans ma tête, ventilateur, habiter un corps comme un acteur. Impossible de résumer, je pourrais pas même en 10 lettres.
Bon app.
Merci, ouais, merci beaucoup.
Vous régaler,
merci.
Hein,
la loi
des sommes, mais oui, j'espère que je pourrais être à la
voir. Ah, bah, j'espère.
C'est cool. Salut, merci.
Merci.
Ah, je suis contente. Ça faisait longtemps que je voulais rencontrer Issa Yazuke et c'est fait. J'avoue qu'elle est un peu intimidante comme ça à première vue parce qu'elle a son regard ne vacille pas. Elle est droite, ancrée. Mais vous l'avez entendu, ça ne l'empêche pas d'être rieuse. Et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle soit précise et à la fois délicate. Dans ses réponses. En fait, ses réponses sont aussi soignées que ses rimes. Et ça fait sacrément du bien. J'ai hâte de voir maintenant le chemin parcouru sur scène. On va essayer d'attraper notre train, les garçons. On retourne à la gare.
Allez.
Kitokolai. Un jour, j'aurai la Kitokolai. Kitokolai.
Un grand merci à la Maison d'Ulysse, au Flo et à Léa Martino qui toutes et tous ont joué leur partition pour que nous puissions rencontrer Issa Yazuke dont le premier album BO d'une vie sort le 15 novembre. Un grand merci aussi à mes samouraïs à moi, Benjamin Sarallier qui a réalisé cette émission, Jérémy Besset qui l'a mixée et Xavier Gibert qui l'a produite pour RFI Labo. A très vite dans vos oreilles.